VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Bonjour, nos toutes dernières nouvelles. Suspense au Sénégal où l'on attend aujourd'hui le verdict dans le procès de Karim Wade, fils de l'ex-président Abdoulaye Wade, pour corruption et enrichissement illicite. Et ce deux jours après la désignation du prévenu comme candidat du principal parti de l'opposition aux prochaines présidentielles. Crise au Mali, la communauté internationale doit prendre ses responsabilités face au refus de la coordination des mouvements de l'Azawad de paraffer le projet d'accord d'Alger. C'est ce que pense Maître Haruna Touré, porte-parole des mouvements signataires de la plateforme d'Alger. On l'écoute au micro de notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Le porte-parole des mouvements signataires de la plateforme d'Alger a voulu cet échange avec la presse pour réaffirmer leur adhésion à l'accord d'Alger. Maître Haruna Touré.
Il vous a été dit que cet accord est un compromis dynamique, équilibré, parce que toutes les parties prenantes ont eu l'occasion, à travers les articulations de cet accord, de trouver un tant soit peu une partie de leurs revendications.
Pour lui, le document a été conçu de façon inclusive.
Le document est intitulé « Accord pour la paix et la réconciliation au Mali ». J'aurais proposé un autre intitulé « Accord pour la paix, la sécurité, le développement et la réconciliation au Mali ». Parce que dans cet accord, on y parle effectivement de paix, mais on y parle également de sécurité, de nouvelles institutions, de développement.
Le MLA ne peut pas changer même une virgule de cet accord parce qu'il ne l'a pas paraphé.
Je peux dire que là, ils ont commis une erreur monumentale. Ils n'ont pas seulement raté le coche, ils ont perdu l'opportunité de s'inscrire de façon dynamique et vitale pour eux. Pour la survie même de la cause qu'ils prétendent défendre.
Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
A noter que le président malien Ibrahim Boubacar Keïta poursuit sa visite en Algérie où il doit s'entretenir avec son homologue algérien Abdelaziz Bouteflika, notamment au sujet de l'accord de paix d'Alger. Le Niger, quant à lui, fait face à trois menaces des djihadistes. Au sud, il y a Boko Haram au Nigeria, et puis les islamistes sont toujours présents dans le nord du Mali, sans parler de la menace venant de la Libye au nord. Concernant l'idéologie de Boko Haram et de l'État islamique en Libye, Idriss Fall, notre envoyé spécial à Niamey, a recueilli l'avis d'un islamiste nigérien, Issoufou Bachar, ancien ambassadeur du Niger en Libye.
Boko Haram, au départ, c'était une question d'idéologie. Le Nigeria avait une constitution laïque, avait 19 États qui se disent donc de charia. Et alors pour eux, non, on ne peut pas être laïque et en même temps de charia. Il faut que le Nigeria sache ce qu'il veut ou alors qu'on divise les deux pays. Ils n'avaient pas une seule allumette, ils ne faisaient du mal à personne. Jusqu'à ce qu'un gouverneur s'est mis maintenant contre eux. Ils ont été les premiers à être massacrés. Plus de 3000 personnes avaient été tuées. Après 2009, ils sont partis à l'étranger, ils sont formés. Et maintenant, ils mènent une lutte contre l'État du Nigeria.
L'État islamique contrôle des pans entiers de la Libye. Que pensez-vous de ce groupe?
Là aussi, il faut clarifier les choses. L'État islamique date de quelques mois. Alors que ceux qui sont à Benghazi et qui sont différents de ceux qui sont à Tripoli, eux existaient depuis une trentaine d'années. Ils ont fait allégeance à l'État islamique. Mais ce qui est sûr, la Libye, c'est vraiment trois régions regroupées. Le clanisme est très important en Libye. Se réfère à l'État islamique uniquement pour embêter l'Occident. Mais ils n'ont vraiment aucun rapport avec l'État islamique. Et je crois que c'est une alliance vraiment circonstancielle.
Issoufou Bachar, ancien ambassadeur du Niger en Libye. La lutte contre l'Ebola maintenant a signalé cet anniversaire en Guinée. Le 23 mars 2014, la Guinée déclarait le premier cas confirmé du virus Ebola. Un an après, environ 3000 personnes ont été contaminées et plus de 2200 sont mortes de la maladie. Même si le pays poursuit l'essai clinique vaccinal, la lutte contre l'Ebola reste difficile à cause des réticences dans la région côtière. Reportage à Conakry de notre correspondant Zakaria Kamara.
La lutte contre Ebola est maintenant plus orientée vers la Basse-Côte, région où se trouve la capitale Conakry, car les réticences se sont répétées dans cette partie du pays où l'on compte plusieurs dizaines de cas, alors que le Sud ne présente aucun malade dans les centres de traitement. Le ministre guinéen de la Communication explique pourquoi Ebola fait plus de victimes actuellement en Basse-Guinée. Alors, Alhoussène Makanera Kaké.
Vous savez, la Basse-Côte, d'abord, c'est la capitale de la Guinée. Donc, c'est la somme de toute la Guinée. Il y a aussi la présence de la Sierra Leone à côté de Forécaria, qui partent à 150 km le long des frontières.
Face au nouveau foyer, les autorités sanitaires ont annoncé des mesures fermes, comme par exemple traduire des personnes devant un juge. La Coordination nationale de lutte contre Ebola appelle à la mobilisation. Son chargé de communication explique les nouvelles mesures. Foritas Silla.
Si une personne cachée est malade dans le quartier sans nous informer, si jamais on découvre que cette personne décédée est Ebola, là la personne qui a gardé le corps sera poursuivie en justice.
L'an 1 d'Ebola en Guinée, c'est aussi le décès de 108 agents de santé et la guérison pour plus de 1000 cas confirmés au départ. Conakry, Zakaria Camara, pour La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
En RCA, au moins une vingtaine de personnes auraient été tuées samedi et dimanche dans le centre-nord du pays. C'était au cours d'une attaque attribuée à des éleveurs peuls armés. Chérubin Dorsil.
Au total, 9 villages sur l'axe Kakabandorom-Bray ont été la cible de cette attaque. Selon des sources locales, plusieurs dizaines de combattants ex-Séléka associés aux peuls armés s'en sont pris à des villageois en représailles au vol des troupeaux de bœufs des éleveurs peuls par des anti-balakas présumés. Maouloud Moussa, porte-parole Séléka de Kagabandoro, a nié l'implication de son groupe dans ces attaques. Il a pointé du doigt des éleveurs Mbororo armés. Ce regain de violence a provoqué la fuite de plusieurs centaines de personnes à Kagabandoro centre, précisément au site des déplacés de l'évêché. La présidente de la transition s'est rendue samedi à Ndélé, dans le nord du pays, à la tête d'une forte délégation, une manière de rassurer les populations de cette ville, un des bastions de l'ex-rébellion Séléka, qu'elles ne sont pas oubliées. Catherine Samba-Panza a aussi appelé les différentes communautés à œuvrer pour la paix et le vivre ensemble dans la région.
Afrique du Nord maintenant, en Tunisie, l'attaque terroriste de mercredi dernier à Tunis qui a fait 21 morts, un policier tunisien et 20 touristes et a été revendiquée par le groupe État islamique, a de nouveau mis l'accent sur l'attraction exercée par les organisations djihadistes sur certains jeunes tunisiens. Pourquoi une telle attraction? Un début de réponse avec Jawar Ben Mbarek, leader du réseau Doustourna, organisation de défense des droits humains en Tunisie, au micro de Claire Morin-Gibourg.
Je pense qu'il y a plusieurs paramètres qui peuvent expliquer. Ce sont des jeunes issus de milieux très défavorisés, surtout des milieux déracinés, d'origine rurale, des familles installées récemment et en masse dans des sortes de bidonvilles autour des grandes villes, ce qu'on appelle les ceintures de pauvreté autour de la capitale, mais aussi autour des grandes villes tunisiennes. C'est des jeunes généralement qui ont des cycles de formation et d'éducation très courts, qui ont échoué dans leur parcours scolaire, mais ce n'est pas nécessairement la totalité du djihadisme. Il y a parmi ces jeunes-là aussi des jeunes issus de milieux de classe aisée, de la classe moyenne aussi, des jeunes étudiants, des artistes, des rappeurs. Il ne faut pas oublier que ces groupes utilisent d'une manière très, très moderniste les nouvelles technologies.
Jawar Ben Mbarek, leader du réseau Doustourna, organisation de défense des droits humains en Tunisie. Et maintenant, la minute économique avec Jacques Aristide.
Le Gabon veut lever 30 milliards de francs CFA d'emprunt dans le marché de la CEMAC. Ces opérations de levée de fonds vont se dérouler dans la période avril-décembre 2015 à travers 3 ou 4 émissions auprès de 13 établissements bancaires agréés. Mitigé, le dernier rapport sur la sécurité alimentaire dans le monde, l'Institut international de recherche sur les politiques alimentaires note des avancées. La pauvreté a été réduite l'année dernière et le nombre de personnes souffrant de la faim a également diminué, mais les conflits, les changements climatiques et les maladies ont perturbé la production et le commerce des aliments. La douane burkinabé innove avec un nouveau logiciel pour automatiser les opérations douanières et augmenter les recettes à la suite de la Côte d'Ivoire, du Ghana et du Togo qui ont déjà adopté Sidonia World. Le Burkina Faso se met à cette trouvaille. Cette nouvelle plateforme qui va permettre de faciliter les opérations douanières a été développée par la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement avec l'appui financier de la Banque mondiale. La douane burkinabé collecte annuellement environ 550 milliards de francs CFA.
Merci Jacques Aristide. Et pour terminer, au Nigeria, début de la dernière semaine de campagne avant les présidentielles du 28 mars. Selon l'AFP, le président Goodluck Jonathan et l'ex-général Muhammadu Buhari sont les seuls candidats à avoir une chance de remporter ce scrutin. Voilà, c'est tout. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info.